19h-20h, Hélène Zélani.
19h36, on va maintenant revenir sur cette célèbre et mystérieuse affaire, la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a presque 9 mois. Depuis ce matin, une mise en situation a été organisée dans le hameau du Haut-Vernay, elle vient de se terminer, c'est l'équivalent d'une reconstitution, sauf que là, il n'y a pas de suspect. On en parle avec vous, capitaine Marc Roland, bonsoir.
Bonsoir à vous, merci pour votre invitation.
Merci d'y répondre. Vous êtes porte-parole de la PNM, Association Professionnelle Nationale de Militaires. 17 personnes ont donc reconstitué le moment où le petit garçon a été aperçu pour la dernière fois le 8 juillet vers 17h15. Est-ce que ça veut dire que les enquêteurs ont de nouvelles informations qu'ils veulent vérifier ?
En tout cas, ce qui apparaît à la lecture du grand public et des sachants, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un acte d'instruction et d'information majeur à la diligence des juges d'instruction qui sont directeurs et pilotes de ce volet pénal avec un transport in situ, des constatations, des convocations à témoins, des visites domiciliaires, tout ça pour illustrer sur place la lecture d'une procédure pénale lourde et écrite.
Mais quel est l'intérêt de ce genre de mise en situation ? On l'a dit, c'était il y a pratiquement 9 mois. Est-ce que c'est pour éliminer éventuellement des hypothèses ?
En tout cas, c'est pour bien comprendre ce qui est écrit, ce qui est formalisé dans une procédure pénale. Et c'est pour bien illustrer l'action des uns et des autres et la rapporter dans un contexte matériel de manière à éviter les interprétations ou les non-dits qu'on pourrait éventuellement tirer de la procédure ou du contexte.
Et on peut imaginer que 9 mois après, tout d'un coup, des témoins, de la famille, aient comme une illumination, que quelque chose leur revienne. C'est possible, ça ?
Tout est possible. Avec la nature humaine, tout est possible. L'humanité a toujours cette part d'étrangeté qui fait que parfois, à des moments donnés, elle peut se révéler diverses et variées. En tout cas, l'idée, c'est de tout tenter pour ne rien oublier et en cela, tout acter en procédure.
Le Haut-Vernay, c'est un tout petit bourg de 25 habitants à 1200 mètres d'altitude. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Comment on peut imaginer, alors vous dites que la nature humaine peut réserver son lot de surprises, mais comment on peut imaginer que dans un contexte comme celui-là, un huis clos comme ça, on puisse tirer de nouveaux éléments d'une journée comme celle qui vient de se dérouler ?
Et vous avez dit le mot exact, cette affaire, je dirais hors norme, et vous l'avez dit en préambule, concerne une population restreinte, un village presque isolé du restant de la vallée. Effectivement, comment faire ? Eh bien écoutez, remettre en situation, comprendre les us et les coutumes locales, détecter des profils, comprendre les modes de pensée, les modes de réflexion de ces gens qui effectivement détiennent par eux-mêmes, parce qu'ils ont vu, et surtout parce qu'ils n'ont pas vu, une part de la vérité, et peuvent contribuer ainsi à déclencher de nouvelles pistes de réflexion, de nouvelles portes à ouvrir pour investiguer toujours plus.
Qui est-ce qui gère une journée comme celle-là, de mise en situation, puisque c'est le mot qu'il faut employer ? Est-ce que c'est le magistrat tout seul ? Est-ce qu'il est assisté ? Comment ça se passe très concrètement ?
Eh bien écoutez, c'est une très très bonne question, parce qu'effectivement, il y a le volet en surface, l'intervention massive des gendarmes mobiles de Orange qui viennent pour étanchéifier, sécuriser la zone. Mais il ne faut pas omettre tout ce volet, je dirais, procédural avec les OPJ, les magistrats qui sont en charge et qui mettent en place, qui décident de mettre en place effectivement cette mise en situation, mais également tout le soutien logistique qui permet aux investigations de se mener avec, je dirais, sérénité et confort. Et je pense notamment, et c'est très basique, mais ça fait partie de la procédure, ça fait partie du schéma, tout le soutien sanitaire, le soutien alimentaire, le soutien hébergement, les commodités, parce que vous pensez bien que 100, 150 personnes sur place, une journée entière, ont des besoins naturels qu'il convient effectivement de répondre.
Il faut y penser, mais oui.
Et effectivement, et je rends hommage à ces personnels qu'on ne voit pas, et qui appuie effectivement l'action majeure, celle des enquêteurs, celle des techniciens en identification criminelle qui prennent des photos, qui filment la scène, nos pilotes de drones qui permettent de fixer par le haut les images observées depuis les airs afin de d'abonder le dossier pénal, de l'illustrer toujours par une cartographie et des images qui vont contribuer, je l'espère, effectivement, à mieux comprendre ce qui s'est passé.
Ah, donc il y a de nouvelles images qui ont été captées aujourd'hui, même si ce n'est pas du tout la même météo, le même moment de l'année. On ajoute au dossier de nouvelles images, c'est intéressant.
On peut imaginer qu'on a reproduit la progression de l'enfant et de confronter cette progression de l'enfant avec les différentes étapes où notamment nos deux témoins importants ont vu ce petit garçon à la fois descendre le village et remonter le village. Et tout ça, c'est chronométré, c'est calculé, c'est analysé. En tout cas, on détermine la faisabilité et la véracité de ces témoignages, leur caractère, je dirais, prégnant.
Quelles sont les pistes possibles ? Est-ce que, par exemple, la piste de l'accident reste encore envisagée ou elle a été totalement exclue ?
On n'exclut jamais rien dans une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire, c'est un acte d'intelligence où on priorise les hypothèses. La thèse de l'accident reste une hypothèse, même si elle est devenue de plus en plus marginale, elle reste quand même, je dirais, en fond de soute, en fond documentaire, en arrière-pensée, dans la tête des enquêteurs.
Oui, parce qu'il y a eu d'innombrables battues, hein, évidemment, dans ce secteur. On a pu imaginer une chute mortelle, c'était un tout petit garçon, c'est un tout petit garçon, on va parler au présent. Et aucune, bien sûr, de ces battues n'a donné le moindre résultat. Mais vous le dites, malgré tout, ça reste une hypothèse. On a aussi parlé ces derniers jours de la piste du grand-père maternel d'Émile. Et d'ailleurs, il faut souligner que son avocate était présente aujourd'hui, ce qui n'est sans doute pas un hasard. C'est un homme qui avait été placé sous statut de témoin assisté dans une enquête qui date, hein, puisqu'elle date des années 90, pour des violences et des agressions sexuelles présumées dans un établissement scolaire religieux du Pas-de-Calais. Est-ce que cette piste aussi, elle paraît envisageable ?
Cette information dont vous nous faites part, effectivement, concerne un dossier qui commence à dater d'il y a presque plus de 30 ans,
oui,
avec une récente implication au titre, implication ou du moins implication dans le dossier pénal, bien sûr, au titre du témoin assisté depuis environ 6-7 ans. Cette information, ce renseignement judiciaire était connu des enquêteurs dès le début. Ce volet, je dirais, d'analyse a été exploité et pour l'heure n'abonde en rien le dossier du petit Émile ouvert pour des faits de nature criminelle.
J'aimerais avoir votre conviction personnelle. Est-ce que vous pensez qu'il est possible ? Possible parce que le mot est trop ouvert. Est-ce que vous pensez que ce mystère sera percé ?
C'est une question extrêmement grave. En tout cas, les gendarmes locaux, ceux de la SR de Marseille, ceux du groupement du 04, les camarades de Digne, ceux de Barcelonnette, s'engagent précisément pour que ce dossier sensible, grave et surtout complexe, ne devienne jamais un cold case.
Comment vous expliquez l'appétit, l'intérêt, je ne sais pas quel mot employer, du grand public pour ce genre d'affaires, pour ces disparitions inexpliquées? Il y a toujours, parce que malheureusement des disparitions, il y en a d'autres, mais celle-là, il y a des cas comme ça qui focalisent l'attention. C'est ce petit garçon si mignon, si jeune, qui disparaît si mystérieusement. Qu'est-ce qui peut expliquer l'intérêt général pour cette histoire ?
La ferveur populaire a parfois des résonances que le commun des mortels ne pourrait identifier et expliquer. En tout cas, le petit Émile pourrait être le fils, le petit-fils de tout un chacun. Et je pense que beaucoup de gens se reconnaissent à la fois dans la souffrance des parents et des grands-parents avec ce petit enfant à l'image extraordinaire qui circule sur les réseaux, l'innocence de la jeunesse, cette joie de vivre, et puis soudain, cette question, qu'est-il arrivé ? Où est-il ?
Merci beaucoup, capitaine Marc Rolland, porte-parole de la PNM, d'avoir été en direct sur Europe 1. Un grand merci. On va marquer une pause, on va se retrouver juste après pour parler du chocolat. C'est normal, juste avant Pâques.